Il est 8h.
J'ai travaillé, j'ai beaucoup révisé pour le bac philosophie, donc je suis quand même content de faire cette épreuve-là maintenant.
C'est parti pour le bac 2021. 525 000 candidats des filières générales et technologiques découvrent les sujets de l'épreuve de philo à l'instant même. Nous allons dans un lycée parisien en direct dans quelques secondes. Après un réformiste, le prochain président iranien devrait être un conservateur. Ebrahim Raisi, qu'on imagine même succéder un jour au guide suprême. Paradoxalement, il pourrait favoriser un nouvel accord sur le nucléaire. L'envoyé spécial d'Europe 1 à Téhéran va nous expliquer pourquoi. Et puis, la mode est décidément au train de nuit, revenue en grâce avec le plan de relance. Une start-up veut créer des hôtels sur rail, autrement dit, la version luxueuse du Paris-Rome ou du Bruxelles-Barcelone. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bas les masques en extérieur, fini le couvre-feu des dimanches. Qu'en pense Valérie Pécresse, la présidente candidate en Ile-de-France pour les régionales? Y voit-elle une décision sanitaire ou bien politique? Rendez-vous 8h15.
C'est juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour, vous avez 4 heures, bon courage. Cette phrase vient de retentir simultanément dans des milliers de salles d'examen où l'on passe le bac ce matin. Alors ça vous paraît habituel, c'est le rite de passage par excellence vers l'âge adulte. Pourtant, l'excellence, l'année dernière, le grand diplôme républicain s'était résumé à du contrôle continu. Cette fois-ci, retour des copies, des examinateurs et du stress peut-être.
C'est ce qu'on va voir avec vous, Virginie Riva, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pour Europe 1 en direct du lycée Fénelon à Paris, avec des lycéens soulagés tout de même que le bac arrive enfin.
Oui, et des étudiants plutôt détendus, hein, même s'ils sont arrivés tôt ce matin. Clarisse était parmi les premières. Elle était là un peu avant 7h et pourtant, comme la majorité des élèves ici, elle a déjà son bac. Une très bonne note en philo au contrôle continu. Et d'ailleurs, seule la meilleure note de ces deux notes entre celle obtenue ce matin et celle obtenue durant l'année sera finalement retenue. Mais elle a quand même envie de jouer le jeu.
Non, je ne suis pas spécialement stressée, mais j'ai juste envie de faire le mieux que je peux pendant cette épreuve. Et j'ai eu 14,5 en contrôle continu, donc c'est pas mal. Et si je peux avoir un peu plus là pendant l'épreuve, ça serait bien. Pour la mention, pour la note globale, pour ma fierté, pour moi.
Voilà, autre aménagement ce matin, les élèves auront 4 sujets au lieu de 3. Il ne faut pas partir avant 9h, durée légale, sinon ça sera 0 et c'est 7 notes qui sera retenue. Devant le lycée Fénelon, personne n'a envie de partir avant ou de rendre copie blanche. Ils sont plutôt, comme Alexis, contents d'avoir enfin une vraie épreuve.
En vrai, je me dis qu'il fallait quand même qu'on fasse un peu comme les anciens, fasse un peu un vrai bac, on ferait une vraie épreuve. Du coup, je suis quand même content d'avoir fait un minimum, d'avoir travaillé un minimum. Au moins, ça montre que je ne me suis pas trop opposé sur le contrôle continu. Et à la fin, je n'ai pas travaillé, mais je suis vraiment venu. J'ai travaillé, j'ai beaucoup révisé pour le bac philosophie. Donc, je suis quand même content de faire cette épreuve-là maintenant.
Voilà, à cette heure précise, normalement, ça y est, tous les élèves ont commencé à découvrir les sujets. Nous pourrons vous les communiquer, mais un peu plus tard, on les connaîtra d'ici plus d'une heure.
Virginie Riva, la spécialiste éducation d'Europe 1, on a hâte que vous nous donniez les intitulés des sujets. Tiens, je vous en propose un. Se démasquer, est-ce retrouver la liberté?
Oh, c'est joli ça.
Pas besoin de disserter. Hein. Nous avons le droit dès aujourd'hui de ne plus porter de masque en extérieur, sauf en cas de regroupement ou dans les lieux bondés, les stades. Le couvre-feu, lui, va tomber dès dimanche soir, 10 jours plus tôt que prévu donc.
Lui sera sans doute sans masque. Emmanuel Macron dans la Somme et dans l'Aisne aujourd'hui.
Visite de la maison natale de Jean de La Fontaine à Château-Thierry à quelques semaines des 400 ans de sa naissance, mais aussi et surtout à 3 jours des élections régionales. Ce déplacement du président sur les terres de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France n'est pas un hasard, Jean-Rémy Baudot.
Oui, depuis plusieurs semaines, le chef de l'État s'investit sur le terrain en allant à la rencontre des Français. Quoi qu'en dise l'Élysée, il fait clairement de la politique. Il ne faut pas le sous-estimer, il fait ce qu'il faut, explique une ministre. En ligne de mire, notamment, la lutte contre le RN. À l'Élysée, on l'a théorisé depuis longtemps, c'est dans les territoires qui semblent les plus abandonnés par l'État que le vote d'extrême droite prospère. C'est le cas notamment à Villers-Cotterêts, où Emmanuel Macron finira sa journée. Ville RN depuis 2014, son château, longtemps en ruine, deviendra l'an prochain la cité internationale de la langue française. Emmanuel Macron veut en faire un symbole. Une présence sur le terrain qui aura tout de même peu de chances de modifier les équilibres en vue de dimanche. La liste LREM est autour de 10% d'intention de vote dans les Hauts-de-France. Si un seul déplacement du président pouvait changer la donne, ça saurait, sourit un conseiller. Selon nos informations, hier, dans le huis clos du Conseil des ministres, Emmanuel Macron a invité son gouvernement à, je cite, « ne pas tirer des leçons nationales des résultats de dimanche prochain ». comme s'il préparait lui-même les esprits à une certaine déroute électorale.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
Les candidats et leur soutien qui se démultiplient aujourd'hui. Marine Le Pen en PACA aux côtés de Thierry Mariani, Christian Jacob dans les Hauts-de-France avec Xavier Bertrand, Olivier Faure dans le Grand Est. Jean Castex, lui, va passer par 3 régions en un seul jour. Peut-on être conservateur et amener le changement? Vous allez voir que cette question...
sur l'épreuve de philo.
Oui, elle n'est pas philosophique, elle est politique, cette question, en Iran, avec l'élection présidentielle demain. La victoire est promise à l'ultra-conservateur Ibrahim Raisi. On le présente déjà comme le fils spirituel du guide suprême Ali Khamenei, qui est en poste depuis 32 ans.
Et sans attendre, nous retrouvons notre envoyé spécial à Téhéran, Jean-Sébastien Soldaini. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour.
Un tenant de la ligne dure du régime, on imagine que cela compliquerait encore les relations avec l'Occident ?
Au contraire, ça pourrait même être favorable. Si Ibrahim Raisi gagne demain, le pays se retrouvera avec un président sur la même ligne que le guide suprême, avec le soutien des gardiens de la révolution et avec un parlement qui lui est acquis. Il y aurait donc plus de cohérence dans les positions iraniennes. Ce sera plus stable. C'est le message que font passer les conservateurs par l'intermédiaire de cet influent professeur de relations internationales, Fouad Izadi. Il ne ferme aucune porte dans les relations avec les Occidentaux.
Iran likes to have good relations with Europe.
L'Iran apprécie avoir des bonnes relations avec l'Europe. Le problème, c'est que pour l'instant, les Européens ne viennent pas vers nous. Ensuite, quel que soit le président élu, il négociera avec les États-Unis s'il pense qu'ils sont de bonne foi.
Cet expert en est persuadé, les discussions en cours à Vienne sur l'accord nucléaire ne s'arrêteront pas avec l'arrivée d'un président conservateur à Téhéran.
Alors justement, Jean-Sébastien, cet accord nucléaire, on le disait presque enterré, est-ce qu'il pourrait être réactivé ?
Eh bien, si Ibrahim Raisi veut séduire une population largement lassée par la politique, il doit obtenir la levée des sanctions. C'est ce qu'attend avec impatience ce jeune professeur d'anglais.
Bien sûr que M. Raisi doit réactiver cet accord. Il sait que c'est important parce qu'il s'agit d'économie et donc de manger pour le peuple iranien. Nous ne pouvons plus nous payer de viande, ni de poulet, ni d'œufs. Alors peut-être qu'au début, les conservateurs vont montrer les muscles. Mais ils vont vite comprendre que sans cet accord, ils ne pourront pas gouverner ce pays et ils vont revenir aux discussions.
Et c'est aussi ce que pensent les adversaires politiques d'Ebrahim Raisi. L'ancien élu réformateur Mustafa Tarjizadeh en est persuadé. La levée des sanctions qui perturbent la vie quotidienne, c'est l'objectif numéro un des durs du régime.
Ils n'ont pas d'autre choix que de négocier avec les Américains. L'accord nucléaire finira par être appliqué et les problèmes économiques liés aux sanctions seront réglés. L'Iran pourra même vendre à nouveau son pétrole.
Vendre du pétrole, c'est faire rentrer de l'argent et gagner en popularité. Il y aura probablement un tour de vis sur les libertés publiques, mais il pourrait au moins se prévaloir d'être ceux qui ont relancé le pays là où les modérés ont échoué. Ça placerait le camp Raisi dans une position confortable à un moment clé, un moment où la succession de l'ayatollah Khamenei, 81 ans, se prépare. Et pour assurer la survie du régime des mollahs, les conservateurs doivent avoir les coudées franches.
Dossier signé depuis Téhéran, Jean-Sébastien Soldaini, l'envoyé spécial d'Europe 1. Et avec vous, Jean-Sébastien, nous suivrons cette élection présidentielle qui a donc lieu demain en Iran.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Embarquement à bord du train de nuit le plus confortable que vous puissiez imaginer.
Et puis un autre train, le 006. C'est le titre d'un livre dans lequel des auteurs célèbres sont pastichés.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Si vous avez de bons souvenirs de voyage en train de nuit, la qualité de la literie et la discrétion de vos voisins de compartiment n'en font pas forcément partie pour relancer ces liaisons nocturnes. La SNCF a promis quelques efforts, mais ce sera difficile de battre ce concept dévoilé par Midnight Trains, une start-up soutenue par quelques investisseurs très solides.
Mais elle vient de dévoiler un projet d'hôtel sur rail, Aurélien Fleureau.
Oui, dans 2 ans et demi, la première destination, ce sera l'Espagne ou l'Italie, donc un Paris-Barcelone ou un Paris-Rome en voyageant dans une cabine privative, seul, à 2, à 4, pas d'inconnu ronfleur à vos côtés et un service de restauration de qualité, un positionnement inédit voulu par Adrien Aumont, cofondateur de la plateforme de financement participatif KissKissBankBank.
Notre but n'est pas de faire un produit de luxe, notre but c'est de réinventer le standard du train de nuit. Considérer qu'en dessous de ça, ça ne peut pas être compétitif face à l'aviation. Ce principe d'hôtel l'hôtel sur rail, c'est pour recréer du confort. Le train est le moyen de transport le plus durable. Donc on essaie de réinventer cette expérience avec des chambres privatives, des bonnes literies, un beau restaurant. Il faut mettre le paquet si on a envie que les gens quittent l'avion pour monter dans le train.
Avec des tarifs qui devront donc concurrencer les compagnies aériennes qui font du moyen courrier en prenant en compte leurs frais cachés comme pour les bagages, Midnight Trains se présente comme la première start-up ferroviaire française soutenue par des entrepreneurs comme Xavier Niel, le patron de Free. Un deuxième tour de table est attendu à l'automne quand il faudra investir dans le matériel roulant des trains neufs qui risquent de donner un sacré coup de vieux aux actuels intercités de la SNCF.
Aurélien Fleureau, spécialiste des transports d'Europe 1. Le luxe peut-il nous faire oublier le temps ? Voilà une question possible du bac philo, tout comme celle-ci d'ailleurs. Écrire à la manière d'un auteur connu, est-ce lui dérober son art ?
En tout cas, l'écrivain Pascal Fioretto a poussé très loin le concept du pastiche dans son livre « L'anomalie du train 006 » qui sort aujourd'hui. Nicolas Caro a lu ce concentré d'imitation de style.
Toute ressemblance avec des écrivains connus n'est pas du tout fortuite. On doit déjà à Pascal Fioretto « Et si c'était niais » ou « L'élégance du cornichon », à chaque fois, même exercice, créer un roman inédit en imitant le style de certains écrivains. Dans son nouveau livre, il nous emmène dans un train reliant Paris à Brive-la-Gaillarde. Il n'y a là que des auteurs et à chaque chapitre, on change de voix. C'est d'abord un certain Joël qui raconte en essayant de créer un maximum de suspense. On aura reconnu Joël Dicker. Puis c'est Virginie dans un style très rock. Virginie Despentes, bien sûr, puis Emmanuel, c'est-à-dire Emmanuel Carrère, Aurélie Valogne ou Sylvain, qui grimpe partout et écrit des choses comme « On n'allait jamais chercher trop haut l'envie de ne pas être en bas » et on identifie tout de suite le style de Sylvain Tesson. Jamais de moquerie, c'est un jeu. D'ailleurs, à part deux ou trois ronchons, la plupart des écrivains sont ravis d'être pastichés. Pascal Fioretto.
De manière très sympathique, Amélie Nothomb m'avait dit avec beaucoup d'ironie « C'est formidable, mais vous n'avez lu que mes 10 premiers livres » ou dernièrement, la Sylvain Tesson qui m'a dit « Je me suis beaucoup marré, mais en vrai, je suis bien pire que ça. »
Et celui qui pousse encore plus loin l'autodérision, c'est Hervé Letellier, le prix Goncourt, qui signe la préface de ce livre très drôle.
Nicolas Caro, ça s'appelle donc « L'anomalie du train 006 ». Il y a déjà au moins trois références dans ce titre de livre.
Merci beaucoup François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1. Il est 8h13.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À suivre l'interview de Sonia Mabrouk avec la présidente de la région Île-de-France, candidate à sa réélection, Valérie Pécresse.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invitée ce matin, la présidente de la région Île-de-France, candidate à sa réélection, Valérie Pécresse.
Bienvenue à vous et bonjour Valérie Pécresse.
Bonjour.
Fin du couvre-feu ce dimanche, fin de l'obligation du masque en extérieur depuis ce matin. Est-ce que c'est le signe, comme on l'entend, du pragmatisme et du bon sens ?
Absolument. Moi, j'avais réclamé qu'on réexamine cette règle du couvre-feu parce que il n'y a rien de pire qu'une règle qui n'est pas appliquée. Et surtout, il n'y a rien de pire que le deux poids, deux mesures. Vous avez vu que des dérogations avaient été données à Roland-Garros et il y avait les amateurs de foot, il y avait les jeunes qui disaient « Mais pourquoi Roland-Garros et pas nous ?» Donc, je crois que c'était une décision pragmatique. Alors, c'est une décision pragmatique et que je salue, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on arrête les gestes barrières. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se méfier de l'arrivée des nouveaux variants. Et c'est pour cela que je demande au gouvernement d'être particulièrement vigilant sur l'arrivée aux frontières.
Ils ne le sont pas ? Le gouvernement ne l'est pas suffisamment ?
Le gouvernement a vraiment renforcé les choses par rapport à l'été dernier. Mais vous vous souvenez que l'été dernier, les variants anglais étaient arrivés par les frontières. Donc les frontières sont beaucoup plus surveillées pour ce qui est des vols venant d'Asie, notamment pour le variant indien. Mais je crois qu'il faut faire très attention à tous ceux qui arrivent de Grande-Bretagne. Parce qu'on le sait, aujourd'hui, au Royaume-Uni, le variant anglais se déploie et il bloque la fin du confinement britannique. Donc il faut surveiller, là encore, le channel. On ne l'a pas fait assez l'année dernière, ne tombons pas dans les mêmes erreurs cette année.
Et Valérie Pécresse, sur quoi sont basées ces décisions ? Est-ce que ce sont des décisions basées sur l'aspect sanitaire, motivées par les chiffres épidémiques en baisse ? Ou bien, de votre point de vue, c'est une décision politique à quelques jours des régionales ?
Je crois qu'il y avait vraiment un taux d'acceptation du couvre-feu qui était devenu terriblement faible. Et compte tenu de la situation sanitaire, il était raisonnable de ne pas le maintenir, d'autant plus que nous allons avoir des matchs de foot.
Donc vous ne voyez pas une volonté délibérée de peser sur le scrutin ? Vous ne dites pas qu'il y a une quelconque manœuvre comme certains l'ont dit ou laissé penser ?
Je dis surtout que les Français sont beaucoup plus intelligents que ça et que les Français, ils savent qu'ils votent pour leur président de région et que ce n'est pas une décision de ce type qui leur fera changer leur vote.
Alors parlons-en justement. Un point sur la sécurité. Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National, continue de vous pilonner sur ce sujet. étrangers et il rappelle toujours que vous avez été le ministre, la ministre qui a participé à un gouvernement qui a fait supprimer des postes de policiers. Comment on peut résoudre un problème dont on a été la cause, dit-il, Valérie Pécresse?
D'abord, c'est complètement faux. Sous Nicolas Sarkozy, la délinquance baissait parce que ce que M. Bardella ne veut pas comprendre, c'est que certes, il y a les effectifs de police. Et on faisait mieux avec moins à l'époque. Mais il y a aussi la sanction judiciaire. Et entre-temps, il y a eu François Hollande et Emmanuel Macron qui ont désarmé la justice. Et c'est pour ça que dans mon projet, vous savez que j'ai pris à bras-le-corps les sujets de sécurité dans mon premier mandat avec le bouclier de sécurité. D'ailleurs, M. Bardella, lui, il a fait le choix de l'insécurité. Il l'a fait deux fois.
Le choix de l'insécurité,
oui, au Conseil régional. Oui. Deux fois. Il a refusé de voter le bouclier de sécurité qui me permettent de financer des polices municipales, la police nationale. Il a refusé de le voter. Et ensuite, il a voté contre la charte de la laïcité. Donc deux fois, M. Bardella a fait le choix de l'insécurité dans ce mandat qui vient de s'écouler. Donc il n'est pas bien placé pour me donner des leçons. Moi, dans le deuxième mandat, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la justice, je vais aller sur la sanction. Parce que je veux que...
Vous en avez les compétences régionales ?
Non, mais je ne les avais pas non plus sur le financement des commissariats. J'ai demandé une convention avec le ministère de l'Intérieur qui me permet de financer la police nationale, la gendarmerie, les polices municipales. Donc j'ai une convention avec le ministère de l'Intérieur. Ce que je voudrais dans le deuxième mandat, c'est signer la même convention avec le ministère de la Justice pour pouvoir faire une agence de travail d'intérêt général. C'est quoi le principe ?
Encore, on va vous dire, est-ce que ce ne sont pas des mesures et des solutions éculées, Madame Pécresse ? Encore l'intérêt général, une agence pour cela ? Est-ce que c'est vraiment le bon sursaut ?
Mais la différence entre moi et l'État, c'est que quand je fais, ça marche. Et l'agence d'intérêt général, pourquoi ? Parce que le principe « tu casses, tu répares » est un bon principe pour les primo-délinquants. Sauf que aujourd'hui, il y a plus de 440 jours entre le moment où un juge prononce un travail d'intérêt général et le moment où il est exécuté. 440
jours. Donc vous voulez raccourcir ce délai.
Un délinquant de 16 ans, il fait son tige à 18 ans. Donc, moi je veux une agence régionale qui fera exécuter les tiges. Je veux doubler les centres éducatifs fermés pour les mineurs. L'État l'avait promis, M. Macron l'avait promis, il ne l'a pas fait. S'il n'y a pas d'argent, la région le trouvera, parce que nous, on est bien gérés et on peut investir là-dedans.
Alors c'est important ce que vous dites. L'argent, j'en viens justement à un élément essentiel de votre campagne et de vos promesses. Vous dites, Valérie Pécresse, que vous voulez régler la dette Covid, je cite, des entreprises en Île-de-France. Vous voulez, disons, effacer cette ardoise. Mais est-ce que vous avez la main sur l'ensemble des prêts réalisés dans votre région ?
Absolument.
Ou alors c'est un engagement sur une partie des prêts.
Oui, absolument. C'est un engagement que je prends, c'est très clair dans mon projet, sur les prêts qui ont été donnés par la région dans le cadre du fonds
très
résilience.
Bien. Donc vous annulez la part régionale de cette dette.
Ce qui est en mon pouvoir. En revanche, ce que je demande à l'État, c'est de réfléchir sur les prêts garantis par l'État. Et de faire la même chose que moi, en partie au moins sur les prêts garantis par l'État, c'est-à-dire de renoncer à une partie des PGE pour les transformer en capitaux propres des entreprises. Aujourd'hui, nos PME, elles vont se retrouver face à un mur de la dette. Elles se sont surendettées pendant la crise Covid. La région renoncera à sa part, à sa demande de remboursement, sur 7000 TPE-PME qu'elle a aidées.
Donc ça, c'est un engagement ferme.
Oui, mais en revanche, l'État, lui, il devrait faire aussi un geste.
Alors, il y a aussi évidemment la question des transports, mais je voudrais vous faire réagir sur le stationnement, en particulier dans la capitale, stationnement payant des deux roues à venir dès 2022, et plus largement, prix du stationnement en hausse pour les voitures des non-résidents. La mairie de Paris se défend de vouloir attaquer les automobilistes. Qu'est-ce que vous répondez ce matin à Anne Hidalgo ?
Je réponds que c'est un nouveau péage qui est un péage urbain qui est en train d'être instauré par la mairie de Paris vis-à-vis des banlieusards qui vont devoir payer 6 euros de l'heure.
Attendez, si vous dites un péage, ça veut dire que Madame Hidalgo fait semblant de taxer les plus pénalisés ?
C'est l'écologie punitive que je réprouve. Parce que moi, je lutte contre la pollution. Mais je lutte contre la pollution avec une écologie positive qui va aider les automobilistes à changer de voiture. Je lutte contre la pollution, pas la bagnole. Pourquoi ? Tout simplement parce que des millions de franciliens n'ont pas d'autre option aujourd'hui pour se déplacer. Alors on va me dire, Madame Pécresse, vous auriez dû faire des transports pour les 12 millions de franciliens. Ça n'est pas humainement possible. Il y aura toujours des trajets qui ne seront pas couverts par des transports en commun, notamment les trajets banlieue-banlieue. Et donc, Madame Hidalgo, avec son péage, cette taxe sur les deux roues, est en train de faire de la ségrégation sociale et de fermer
Paris. Les mots sont forts.
Paris,
hein.
Et
vos
de
mots
fermer...
sont forts.
Mais il y a une autre ségrégation sociale. Les Franciliens n'en s'en sont pas encore rendus compte. C'est la zone à faible émission qui vient de rentrer en vigueur à l'intérieur de la A86 au 1er juin. Cette zone de faible émission, le principe est bon, c'est de dire les véhicules polluants ne rentrent pas à l'intérieur de la A86. Mais le problème, c'est qu'aucune aucune mesure sociale d'accompagnement n'a été prise, ni par la mairie de Paris, ni par personne. Donc, dans mon projet, il y aura une aide de 6 000 euros pour que les automobilistes qui habitent ou qui travaillent dans la ZFE puissent changer leur voiture.
Alors, on entend les promesses, il y a aussi évidemment le budget. Durant votre mandat, Madame Pécresse, vous avez réalisé environ 2 milliards d'économies. Mais est-ce qu'on peut faire mieux de services publics avec moins d'argent ?
Mais bien sûr, alors j'ai un exemple, le logement social. Vous savez que mes adversaires parlent beaucoup de logement social. Pour eux, le logement social, c'est uniquement subventionner des offices HLM pour qu'ils construisent. Eh bien nous, nous avons fait mieux avec moins d'argent. Comment ?
En supprimant 1500 ou 15 000 logements pour les étudiants par rapport aux engagements de 2015, disent vos adversaires.
Non, je reviens sur le logement étudiant, c'est un autre sujet. Le logement étudiant, le problème, c'était la loi qui empêche aujourd'hui de faire du logement très social étudiant. Et donc, les maires ont été bloqués. Et j'ai obtenu du gouvernement que la loi change sur ce sujet pour débloquer la construction de logements très social pour les étudiants. Mais ce n'est pas le même sujet. Mais sur le logement social, on n'a jamais autant construit de logements et de logements sociaux qu'en 2016, 2017, 2018. Pourquoi ? Parce que j'ai dénormé, enlevé des normes. Et c'est ça qui bloquait.
Donc vous dites qu'on peut faire mieux avec moins. Autre exemple, et là vous nous répondez précisément sur les attaques de vos adversaires, la suppression de l'ensemble, Madame Pécresse, des crédits régionaux permettant de financer la prévention des violences entre jeunes. Vos adversaires disent, ben voilà, elle a sabré dans les services publics.
Mais je ne sais pas d'où sort cette assertion, c'est une totale fake news. D'abord, j'ai mis le paquet sur le décrochage scolaire, qui est la première des causes évidemment de violence, puisque les jeunes décrocheurs, ben, ils tiennent les murs. Qu'est-ce que j'ai fait ? Quand je suis arrivée, les écoles de la deuxième chance étaient quasiment en faillite. Edith Cresson est rentrée dans mon bureau pour me dire « les écoles de la deuxième chance sont en faillite ». Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait personne dedans. Donc qu'est-ce que j'ai demandé ? J'ai demandé le fichier des décrocheurs, les noms des décrocheurs, pour pouvoir les appeler un par un. Et là, ça a tout changé. On est passé de 7% de décrocheurs raccrochés à 57%. Et je vais aller plus loin. Je voudrais faire une réserve régionale de professeurs. Une réserve régionale de professeurs avec des professeurs en retraite volontaires pour pouvoir faire de la prévention du décrochage. Et donc, vous voyez, j'ai mis en place une vraie politique de prévention pour lutter contre ce phénomène.
Alors,
de bande.
Un programme évidemment soumis aux électeurs. Et à l'approche de ce premier tour, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de ne pas remporter de nouveau la région ?
L'abstention, la démobilisation. Et vraiment, je le dis à tous les électeurs qui nous écoutent, à tous les franciliens qui nous écoutent, c'est deux projets de société qui s'opposent dans cette élection. Celui d'une gauche qui fait alliance avec l'extrême gauche, avec les Verts qui ont un problème avec la République, c'est pas moi qui le dis, c'est Madame Autain, avec les Verts qui ont un problème avec la République, avec la France insoumise de Monsieur Mélenchon.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Les socialistes et les Verts s'allient avec la France insoumise, quel projet de société cela va-t-il donner ?
Eh bien, je crois, pour moi, que la gauche républicaine, cette gauche social-démocrate, cette gauche qui a les valeurs de la République au cœur, cette gauche de Clémenceau et de Jaurès, elle a rendez-vous avec l'histoire dimanche. Elle a rendez-vous avec l'histoire parce qu'elle va devoir choisir entre faire barrage aux extrêmes, à M. Mélenchon, dont les dérives aujourd'hui sont clairement anti-républicaines.
Mais attendez, si c'est
s'allier avec lui, si elles s'allient avec lui, elles peuvent gagner
mais
la
si
région.
Mais si c'est anti-républicain, Madame Pécresse, ce n'est pas interdit. Je veux dire, cet argument d'anti-républicain, est-ce qu'il va vraiment convaincre les électeurs aujourd'hui ? Bah, ce sont des partis autorisés.
Oui, bien sûr, ils font partie du champ démocratique. Voilà. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand vous défendez les réunions racisées, quand vous attaquez les forces de l'ordre, quand vous cultivez une forme de défiance vis-à-vis des institutions, le complotisme de
vous
M. Mélenchon
dans le champ républicain,
était ignoble. Et non, je pense qu'on doit faire une cloison étanche. Je pense que la gauche républicaine doit faire une cloison étanche avec cette ultra-gauche, cette extrême-gauche, tout comme nous, à droite, nous faisons une cloison étanche avec
vous
le Rassemblement
entendez
national.
Ce qu'elle vous dit,
Monsieur Mélenchon et Madame Le Pen n'ont pas la même histoire, mais leur arrivée au pouvoir causerait la faillite économique et le chaos de la même façon.
Puisque vous répondez ce matin à toutes les attaques, ce que vous qualifiez d'extrême-gauche vous reproche de faire venir Valérie Pécresse dans vos meetings de faux militants issus d'associations communautaires de la région. Qu'est-ce que vous répondez à cette attaque ?
Je réponds que c'est complètement faux.
Tout est faux. Fake news,
absolument,
selon vous.
Absolument. Total fake news. Et d'ailleurs, ça montre la fébrilité de mes adversaires et je les invite à venir dans mes meetings qui sont pleins, comme hier à Provins où nous avions une salle comble.
Si vous gagnez la région,
bien
pour conclure,
plus humble que le Rassemblement national au même endroit.
Si vous gagnez la région, si vous êtes une femme libre, comme vous le proclamez si souvent, rien ne s'oppose à une candidature Valérie Pécresse en vue de 2022.
Aujourd'hui, vraiment, je le redis, l'enjeu, c'est les régionales.
Et
vous ne me détournerez pas. Vous ne me détournerez pas de cette
élection.
Qu'est-ce qui pourrait
faire en sorte que vous ne concouriez pas à la présidentielle ?
Mais ce que je pense, c'est qu'il y a une dream team de la droite dans les régions. Une dream team de la droite avec toute une série de personnalités qui sont en train aujourd'hui de remettre en jeu leur mandat vis-à-vis des Français qui ont besoin de cette légitimité pour pouvoir ensuite développer une troisième voie entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, parce que je crois que les solutions de la droite républicaine sont celles qu'il faut au pays.
Eh bien, nous verrons les résultats de la Dream Team de la droite, comme vous l'avez appelé. Merci Valérie Pécresse, bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h29.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez avec nous à suivre l'info, la météo et le journal de l'Euro. À tout de suite sur Europe 1. Dans un instant, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed.
Pas de pitié pour les croissants et encore moins pour les moustiques, car oui, je déclare la chasse ouverte à ces nuisibles.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Tous les matins, nous retrouvons le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed, qui répond à vos questions santé, notre santé. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Je crois qu'on peut le dire, la saison des moustiques est officiellement lancée. Et ce matin, on va essayer de comprendre pourquoi certains se font piquer plus que d'autres.
Oui, et tout
c'est
d'abord,
pas un mythe,
inutile
ça
de. Non, exactement. Vous allez comprendre que déjà, il est inutile de vouloir éteindre la lumière pour ne pas être piqué. Sachez que les moustiques se repèrent grâce à leur odorat. Ils vont détecter le dioxyde de carbone que nous émettons lorsque nous respirons. Ils sont capables, grâce à leur système de radar, de nous repérer à plus de 30 mètres.
Wow.
Ils vont ensuite se guider en suivant nos odeurs corporelles, celles dégagées par notre haleine, les acides gras au niveau de notre peau, mais aussi d'autres fluides comme nos urines. Enfin, sachez que le moustique est myope comme une taupe et voit plutôt mal. Il s'agirait plutôt de la composition de notre microbiote cutané qui soit déterminante dans les piqûres, c'est-à-dire nos bactéries qui sont présentes et qui vont nous faire sécréter certaines phéromones. C'est pourquoi nous ne sommes pas tous égaux face aux moustiques. Certains se feront dévorer et d'autres non.
Alors comment est-ce qu'on fait pour reconnaître une piqûre de moustique d'une morsure d'araignée, par exemple?
Eh, bravo Mathieu, vous avez quasiment tout dit. Un moustique, ça pique. Une araignée, ça mord. La conséquence, c'est qu'une piqûre de moustique, eh bien, vous n'allez voir qu'un seul petit point de piqûre avec un trou unique. Alors qu'avec une araignée, vous allez avoir deux petits trous correspondant à la morsure. Quoi qu'il en soit, faire la distinction entre les deux a très peu d'intérêt. Vous allez avoir grosso modo un gros bouton qui démange et vous pourrez le soulager avec une compresse d'eau froide, du bicarbonate de sodium que vous pouvez mettre dans le bain ou encore une crème apaisante vendue en pharmacie. Après, conseil évidemment du pharmacien adoré.
La seule différence, c'est qu'il faut garder l'araignée. Parce qu'avec un peu de chance, elle a une toile qui attrapera
Exactement.
Les moustiques. Ça, il faut toujours garder les araignées dans la maison. Quel est le meilleur moyen de prévention alors pour ne pas se faire piquer ?
Alors c'est vrai qu'il existe de nombreuses protections contre les moustiques, mais toutes ne sont pas efficaces. Alors il faut bien distinguer les répulsifs des insecticides. Les répulsifs vont repousser les moustiques, alors que les insecticides vont les tuer. Les répulsifs, vous allez les trouver essentiellement sous forme de spray avec différents produits, comme le DEET, le DEET, qui est le plus efficace, ou des extraits de plantes comme la citronnelle ou des huiles essentielles. Alors je vous le dis tout de suite, les sprays à base de plantes sont à oublier, sauf si vous avez envie de vous faire piquer. Quant aux bracelets anti-moustiques, les appareils ultrasons ou les bougies à la citronnelle, là encore pas d'efficacité réellement prouvée. Le meilleur moyen de protection, eh bien ça reste la moustiquaire. C'est un peu à l'ancienne mais redoutablement efficace, et puis c'est un petit côté romantique, moi je trouve.
Sont bizarres vos dates. On est en direct d'un rendez-vous galant de Jimmy Mohamed. On entend... 8h41 sur Europe 1, on vous retrouve à 15h avec Mélanie Gomez pour son rendez-vous. Merci Jimmy. 8h42, notre planète, Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Avec vous, on a pris soin tous les matins de cette année de défendre la biodiversité. Vous ne nous en voudrez pas d'écraser quelques moustiques en passant.
Non,
Fanny.
Mais les moustiques, vous en rendez pas compte. C'est essentiel pour les oiseaux et ça pollinise pour avoir du chocolat, il faut des moustiques.
Enfin, oui, mais ailleurs que sur ma terrasse, Fanny Agostini, ce matin, vous allez nous parler de toute autre chose, d'une entreprise française qui fabrique des meubles en utilisant des déchets provenant de l'industrie du meuble.
Oui, en pleine reconversion écologique depuis 2018, l'entreprise Pierre Import s'est lancée dans la fabrication de meubles en bois recyclé et elle s'est associée au conseil de l'intendance forestière qui émet des labels qui contrôlent la production du bois, sa transformation, sa distribution, son recyclage. Première bénéficiaire de ce label en France, Pierre Import garantit que 70% du bois utilisé dans ses meubles est de seconde main, c'est-à-dire qu'il est revalorisé d'un produit déjà existant, et les 30% restants viennent des déchets de l'industrie du meuble. L'entreprise, en plus, complète sa stratégie stratégie verte en finançant la compensation carbone, et c'est pas du tout du greenwashing. C'est un partenariat avec Ecoterie. Pour chaque achat de plus de 500 euros, bah, sachez qu'un arbre est planté dans une forêt française.
L'objectif étant de laisser les arbres croître dans les forêts, hein, car plus un arbre pousse, oui, vous faites bien de le rappeler, plus il a le temps de capter du carbone.
Eh oui, comme vous le savez, les forêts jouent un rôle primordial dans l'absorption du carbone qui se trouve dans l'air. C'est en prélevant ce gaz dans l'atmosphère qu'ils peuvent grandir. Mais cette absorption, bah, c'est pas illimité, hein. Dès que du bois est brûlé, le carbone qu'il avait capturé, cet arbre, retourne dans l'atmosphère. On ne soustrait donc du carbone à l'atmosphère que si le bois a une longue durée de vie et si on continue de planter des arbres pour remplacer ceux qu'on a abattus. D'où l'intérêt de systématiser la démarche de Pierre Import. Non seulement il faut empêcher le bois de finir incinéré, d'où l'idée de le réemployer pour fabriquer de nouveaux meubles, mais il faut en parallèle maintenir, voire augmenter la superficie forestière pour être certain qu'on participe à diminuer la quantité de carbone présent en excès dans l'atmosphère.
Fanny, vous nous dites que le bois a une pertinence particulière pour le carbone, mais que le recyclage de mobilier peut concerner d'autres matériaux.
Mais oui, tout à fait, il y a l'exemple notable de Fabric qui réutilise des chutes de vêtements pour faire des meubles. L'entreprise anglo-allemande Pentatonic qui se spécialise dans l'utilisation et la réutilisation du polyéthylène, très présent d'ailleurs dans tous les objets du quotidien. Il y a l'entreprise américaine Imeco qui réutilise de l'aluminium alors que d'autres se servent de résidus de cuivre pour créer du mobilier. Preuve que la circularité commence à se développer partout et qu'elle sera bientôt une règle absolue qui définira la stratégie de toutes les entreprises, autant par nécessité car toutes ces ressources sont par définition limitées, mais aussi par souci d'image, car la gabegie n'est plus vraiment tolérable.
Et une fois que ça tourne, d'ailleurs, c'est aussi un souci d'économie, une fois que ça marche. Merci beaucoup, Fanny Agostini. C'est fascinant tous les matins. C'est notre planète sur Europe 1. 8h44, dans quelques toutes petites secondes, Nicolas Canteloup arrive. Julie est déjà là. A tout de suite.
Europe Matin. Le 7-9. Mathieu Béliard.
8h47 sur Europe 1. Ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup, ce qui fait chanter Jean Cabrol. Tout de suite, Mathieu Béliard pour les infos du jour. Mathieu.
Chère Julie, bonjour, bonjour à tous sur Europe 1. Vous êtes venus nous retrouver, bienvenue sur Europe 1. Et l'actualité, vous le savez, bien sûr, c'est le port du masque à l'extérieur à partir d'aujourd'hui. Voilà, ce matin, on a bien sûr une pensée pour tous ceux qui ont un bec de lièvre à qui il manque une dent. Mais si, il faut penser à eux. Ou ceux qui sont tout simplement moches. Voilà, il faut bien le dire. Il vous reste quand même, chers amis, chers auditeurs, si vous êtes moches, il vous reste quand même la cagoule, hein, chers amis moches. Bon, c'est vrai que c'est pas
la saison
optimale.
Saison,
pour, non, mais c'est vrai, Julie, c'est pas la saison optimale pour la cagoule. Mais dans quelques mois, ce sera impec la cagoule. Grâce à nos masques, ça va, il faut prendre conscience d'une chose, on avait quand même tous au moins 2 points de plus sur l'échelle de la drague, hein, c'est bien dit. Et puis l'autre info, c'est toujours Jean Castex qui a aussi annoncé que le couvre-feu se terminait dimanche.
Oui.
Donc on ne risquera plus de perdre, vous l'avez bien compris, 135 euros si on reste à traîner trop tard dehors. Enfin, ça dépend où, hein, où et quand. Parce que si vous promenez à 2h du matin à Clichy-sous-Bois, à Saint-Denis ou à Mantes-la-Jolie, c'est sûr que vous risquez quand même de lâcher les 135 euros ou même 200 euros, voire même votre iPhone et vos fringues et votre portefeuille aussi. Enfin, c'est quand même une bonne nouvelle, rappelons-le. Allez, à vous Julie.
Merci Mathieu, merci beaucoup. Allez, on va revenir sur les annonces de Jean Castex.
Oui, pardon Madame Julie.
Ah. Monsieur le Président, qu'est-ce qui se passe?
Oui, je voulais passer une petite annonce sur votre antenne. Je peux même, Julie?
Allez-y.
Bien, voilà. Vous permettez? Voilà. Alors,
allez-y.
Je cherche un Premier ministre, homme ou femme, avec une dizaine d'années d'expérience en politique minimum, pour une mission...
Mais attendez, vous virez Jean Castex?
Virer Jean Castex? Mais pas du tout, allons. Simplement, quoi? Soyez lucide. Vous avez vu, Jean Castex, il sort de 7 jours d'isolement quand même. 7 jours d'isolement. Ah ouais. C'est-à-dire qu'avec le masque, le couvre-feu et la vaccination, il a quand même réussi, Jean Castex, à être cas contact. Et là, il enlève toutes les mesures. Ben, franchement, je ne lui donne pas 3 jours avant de finir en réanimation. Hein.
En tout cas, ces annonces ont été accueillies plutôt favorablement, il faut bien le dire.
Oui, mais écoutez, c'est sympa, ce petit cadeau du gouvernement, vous l'avez noté. Hein,
oui.
C'est une initiative générale, toute la majorité s'est investie pour vous offrir ces libertés supplémentaires. Vous allez donc, chers auditeurs, chers électeurs, pouvoir en profiter ce week-end pour voter au régional, donc le cœur léger. Hein. Vous allez pouvoir rentrer dans l'isoloir, plein de gratitude et de joie envers ce gouvernement qui vous permet ces libertés supplémentaires. Et sachez qu'on a quelques petites surprises annoncées avant le deuxième tour. Enfin, si bien sûr le premier tour se passe bien, évidemment. Je dis ça, je dis rien. Je ne peux pas surtout vous influencer en étant un pays
on a bien compris.
De totale liberté d'expression.
Le message est clair. Merci, Monsieur Macron. Le port du masque en extérieur, c'est donc fini. Jean Castex l'a annoncé hier. Bonjour, monsieur le Premier ministre.
Libéré, délibéré, je ne me masquerai plus jamais. Bonjour, madame Julie.
Bonjour,
monsieur Béliard. Bonjour à papy, à mamie, hein, qui nous écoutent et qui n'auront plus, c'est une bonne nouvelle, à s'équiper d'un masque pour sortir. Et il faut dire que pour eux, c'était compliqué. Il faut bien l'avouer, hein. Chaque sortie, il fallait penser à mettre le dentier, les bas de contention, la perruque, la gaine, les lunettes, le masque, voilà. Au moins, avec le masque, ça fait un accessoire de moins.
Et il faut dire que la situation sanitaire est très positive, hein. Ça se justifiait de moins en moins, ce masque.
Oui, exactement, 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 tout est très positif. Et si ça continue comme ça, très bientôt, nous reprendrons la vie d'avant, madame Julie. Hein, oui, Bibi, si, Bibi, non, Bibi. Non, nous supprimerons le masque en intérieur, nous allons reprendre les réflexes d'autrefois, nous permettrons les grands rassemblements, nous supprimerons des milliers de postes dans l'hôpital public, voilà, les vieux réflexes vont revenir. Ah, ça va faire du bien de retrouver ces petites joies que nous avions oubliées, de ne plus être obligés de se restreindre.
Et puis, il y a aussi la fin du couvre-feu, ça c'est pour dimanche.
Ah oui. Oui, la fin du couvre-feu pour dimanche. Non, c'est une décision que j'ai prise en constatant quelque chose d'assez troublant, d'assez étonnant. Un couvre-feu à 23 heures, en fait, ça ne sert absolument à que dalle. Ça nous a frappé hier matin, nous étions en Conseil des ministres, les gens qui sont dehors à 23 heures, ils y sont déjà depuis 20 heures. Et puis en général, passé minuit, il n'y a pas foule dehors. Hein, en particulier en province, hein, vous allez n'importe où, à Melun, à Panfou, eh bien, on commence à s'emmerder vers 19h30. Mais heureusement, ce couvre-feu inutile n'a contrarié personne, vu que personne ne le respectait.
Donc, vous y avez mis un terme. Afin notamment que les Français puissent profiter de la fête de la musique, hein. C'est ça.
Absolument. Les Français pourront profiter toute la nuit des musiciens amateurs de leur voisinage qui pourront jouer en totale liberté Smoke on the Water sur une sono saturée juste en dessous de votre fenêtre et ce, toute la nuit. Non, ne me remerciez pas, ça me fait plaisir. Pardon, excusez-moi.
Ah, Roselyne Bachelot, vous voulez préciser les annonces de Jean Castex, peut-être ?
Oui. Ah bon. Écoutez, en tant que ministre de la Culture, je me demandais, comme il y aura des rassemblements pendant la fête du bruit, enfin, la fête de la musique, on ne pourrait pas remettre les masques ce soir, au moins, hein, je ne sais pas, au moins les rendre obligatoires, vous savez, pour les saxophonistes, les trompettistes amateurs et les clarinettistes, à la con. Vous savez, tous ceux qui se sont fait une spécialité et une fierté de reprendre des tubes de Britney Spears dans des fanfares amateurs. Non, vous savez, ma Julie, cher Laurent, cher Mathieu, vous savez que le silence après du Mozart, c'est encore du Mozart.
Oui, on sait.
Mais je peux vous dire une chose, le silence pendant la fête de la musique, c'est encore mieux que du Mozart.
Merci, Roselyne Bachelot. Nicolas Sarkozy était de retour au tribunal hier pour justifier ses comptes de campagne présidentielle. Bonjour, monsieur Sarkozy.
Mais quelle indignité.
Ah, il y avait longtemps.
Quelle indignité, mon pyjama. Me renvoyer encore moi devant le tribunal pour cette affaire Kadhafi, qui est franchement parfaitement ridicule. Mais c'est une vue de l'esprit. C'est ridicule. Je n'ai jamais, vous m'entendez dire, jamais je n'ai touché de l'argent de ce sinistre personnage Kadhafi. En disant cela, vous m'indignifiez.
On parle de l'affaire Big Malion. Ce sont les comptes de votre campagne de 2012, pas de 2007.
Ah, c'est une autre affaire. Soyez précise, hein, parce que moi, je vais vous dire une chose. J'ai été tellement innocent dans ma vie que je ne peux pas deviner précisément de quelle période de mon innocence vous parlez.
L'affaire Big Malion, vous renvoyez la balle avec Jean-François Copé sur la responsabilité des dépassements des plafonds de dépenses autorisés par l'organisateur de vos meetings, la société Big Malion.
Non, mais écoutez, ce n'est pas moi qui organise mes meetings. Hein, les meetings, moi, je ne m'occupais pas des frais de campagne. Hein. Je ne sais pas qui est cette Big Mamelon, là. Et ce monsieur, mais Jean-François Côté, je ne connaissais pas ce Jean-François Côté. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fait, ce monsieur? Il aurait dépensé trop d'argent pour ma campagne.
Oui, lui ou un autre. Hein. En tout cas, c'est lui qui a engagé Big Malion. Et cette société a dépensé beaucoup plus d'argent pour vos meetings que ce qui était autorisé, voilà. Afin de les rendre le plus impressionnants possible.
Mais je vais vous dire, c'est calmonie. Calmonie, c'est une calmonie, Madame Julie. Ce n'est que des propos calmonieux. Mes meetings, ils étaient tout à fait normaux. Ils étaient sobres, mes meetings. Ils étaient modestes, mes meetings. Je vais vous dire une chose, ils étaient même un peu ternes, mes meetings. Parce que je vous fais mettre la confidence, parce que vous n'êtes jamais venu à mes meetings. Allez-y. Moi, je vais vous dire comment ça se passait. J'arrivais sur scène en costume H&M. Voilà. Vous connaissez le prix du H&M ? Sur une scène en bois. Hein, c'était juste des tréteaux et des palettes. M. Cabron était venu une fois. Des tréteaux et des palettes. Il y avait même M. Mbétou. Éclairé par des lampes Ikea. À bon marché, quelques bougies quand on avait pas il n'y avait pas l'électricité. Ça, ouais. Et après mon discours, une dizaine de personnes, c'est vrai, je vous l'accorde, pouvaient croquer quelques chipsters de Belin. Et c'est vrai, et boire un pulco citron dilué dans de l'eau du robinet.
Oui.
Alors, je vous l'accorde, j'admets que le pulco citron, oui, c'est un peu bling-bling.
Oui,
et je vous rappelle
sûr
que dans les meetings de François Hollande, ils avaient carrément de l'oasis à volonté.
Oui. Bon, dites-moi, vous risquez un an de prison et 3750 euros d'amende, hein, n'empêche.
Je risque 3750 euros d'amende.
Oui.
Attendez, on a fait tout ce cirque depuis 8 ans pour 3700 balles d'amende et un an de prison que je ferai jamais. 3700. Non, mais 3700, mais franchement, c'est ce que j'ai dépensé pour mon déjeuner hier midi. Et franchement, les juges, je m'adresse aux juges, Madame Judé qui doit m'écouter.
Allez-y.
Vous voulez pas que je fasse un chèque et qu'on laisse tomber toute l'affaire, franchement?
Bah tiens.
Franchement, on perdrait tous moins de temps, ça coûterait moins cher aux contribuables, parce que là, ce que vous faites là, tout ce qui se passe, c'est un indignage absolu.
8h57, bravo Nicolas Canteloup. Et Julie, la revue de presse qu'a retrouvée sur Europe1.fr à 8h57. Donc, Philippe Vandel est avec nous, bien sûr. Culture Média va démarrer. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu. Notre info média du jour va s'intéresser à la Formule 1. C'est que le Grand Prix de France a lieu ce week-end. Il avait été annulé l'an passé.
Je sais surtout que vous êtes un grand, grand fan de Formule 1.
Je suis un grand fan, mais je ne suis pas le seul, car l'audience de la F1 ne cesse d'augmenter.
Incroyable.
C'est dingue. La F1 captive parfois plus de téléspectateurs qu'un match de Ligue 1, ce qui est absolument imprévisible. On va en parler avec le directeur adjoint de la rédaction des sports de la chaîne, il est spécialiste des sports mécaniques, c'est Thomas Sénécal. Au sommaire également, c'est le lancement de la 32e saison. Vous savez de quoi ?
De quoi ?
Bah de Fort Boyard.
Ah,
vous n'avez pas reconnu mon imitation ? C'est le père Fouras qui sera avec nous, Yann Le Gac, il est aussi l'auteur de plusieurs épreuves. Ah, je vous ai séché avec cette imitation.
Vous le faites,
hein,
bien.
Ah, c'est ça l'absence de talent. Et on sera aussi avec l'animatrice Élodie Gossuin qui a le record de participation à Fort Boyard. Et puis le musicien Bertrand Burgala, c'est le fondateur du label Tricatel qui avait mis en musique Valérie Lemercier et Houellebecq. Et il sort son nouvel album qui s'appelle Rêve Capital et dont des titres passent déjà sur la BBC et en français, monsieur.
C'est pas tout nouveau, je me souviens de Houellebecq, les poèmes de Houellebecq dits sur de la musique de Bertrand Burgala, c'était quelque chose.
Ouais. Fort Boyard non plus, c'est pas tout nouveau.
Philippe Vandel, Culture Média de 9h à 11h, c'est sur Europe 1 évidemment. Je vais vous souhaiter une très belle journée entre le beau temps et les orages. Vous aurez écouté Laurent Cabrol évidemment, je vous retrouve demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé, on va vous le raconter.